à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Simple. Alors simple, pourquoi ? Eh bien simple, c'est pour parler de celles et ceux qui permettent de rendre la science simple. Médiation, communication, vulgarisation, journalisme, illustration, tous les profils seront présentés et nous allons découvrir les femmes et les hommes qui se cachent derrière ces métiers. Aujourd'hui, mon invitée est Lucie Clarisse. Bonjour Lucie.
Bonjour Elodie.
On s'est rencontrés sur LinkedIn, on a commencé à travailler ensemble et c'est vrai que tu as un parcours assez atypique et j'ai vraiment envie que tu me racontes tout ça. Je vois tes grands yeux. Oh là là. J'ai vraiment envie que tu me racontes tout ça, mais avant qu'on retourne en arrière, j'aimerais que tu me racontes déjà là aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais dans la vie ?
Je fais du dessin pour la science au sens large, c'est-à-dire que j'utilise le dessin, toutes les modalités du dessin, que ce soit la BD, l'illustration médicale ou le motion design, donc le dessin animé, pour expliquer des concepts complexes de science, pour les rendre accessibles et démocratiser la science comme ça.
Toutes les sciences ?
Plutôt sciences médicales, plutôt biologie, tout ça, pharmacologie, ces choses-là.
Est-ce que ce serait lié à ton parcours, par exemple ?
Eh ben oui, effectivement, puisque j'ai un doctorat en sciences de vie de la santé.
Ouais.
J'ai soutenu ma thèse il y a 10 ans.
Je crois que tu fêtais l'anniversaire il y a quelques jours.
Ouais, c'est ça, exactement. Le 11 octobre 2013, j'ai soutenu ma thèse. Donc là, ça fait pile 10 ans. Et voilà. Et du coup, après ça, j'ai eu envie de changer de métier. Mais effectivement, ouais, c'est lié à ça. L'envie de rendre la science accessible, c'est parce que j'ai un pied dedans, en fait, au final. Ouais. Je suis docteur en sciences de la vie de la santé.
Et comment t'en es arrivé de passer d'une thèse de science à illustrer la science? Est-ce que tu as toujours dessiné? Est-ce que c'est venu après? Comment raconte-nous tout.
Alors non, j'ai pas toujours dessiné. J'ai dessiné depuis que j'étais petite jusqu'à 15 ans à peu près.
Ouais.
Quoique j'ai fait une première année de médecine, là je me suis un peu éclatée en anat. je prenais les dessins puis
anatomie, ouais.
Moi c'est ça. Et ma meilleure pote, elle prenait ce que disait le prof et moi je faisais les dessins. Donc okay. Voilà, mais bref, ouais, 17-18 ans, j'ai arrêté de dessiner. Et puis du coup après j'ai pris mon parcours scientifique, etc. Je me suis complètement coupée de mes mains au final. J'étais beaucoup dans quelque chose d'intellectuel, de réfléchir, etc. Et puis, après ma thèse, j'ai pas voulu continuer la recherche. C'était un milieu qui me correspondait pas. Enfin, j'avais besoin d'autre chose. Mm-hmm. Et donc, après un poste ATER, donc j'ai juste fait un poste, un genre de post-doc d'un an.
Ouais, les postes ATER, en fait, c'est des postes qui sont comme des postes d'enseignant-chercheur, mais temporaires.
C'est ça. Mm-hmm. Et du coup, ça a duré un an. Et après ça, ouais, je me suis vite rendu compte qu'effectivement, la recherche, c'était pas pour moi. J'ai enseigné un petit peu. J'étais prof d'SVT au collège, au lycée. Je faisais pas mal de remplacements.
Ouais.
Et puis, suite à ça, j'ai essayé de passer un peu le CAPES et tout. Mais j'avais pas envie d'être un pion, en fait, qu'on me décide pour moi où est-ce que je devais aller.
Ouais.
Et j'arrivais sur les 30 ans. C'était un peu compliqué, quoi. Voilà, tu commences à avoir ta vie et tout. T'as pas envie d'être parachuté quelque part à l'autre bout de la France. Et donc, j'ai arrêté tout ça. Et on est parti en voyage à vélo, en tandem.
Ouais.
Et donc, je suis allée de ferme en ferme, parce que mon compagnon de l'époque était paysan.
Ouais.
Et donc, on est allée de ferme en ferme avec le projet de monter une ferme pédagogique sur une ferme. On ne savait pas quel type de ferme, quoi. Et puis, au bout de 2 mois et demi, on a sillonné un peu la France et l'Espagne en vélo. Et le truc vraiment qui est venu me chercher, c'est le pain. Donc, au final, on a atterri dans une ferme en Charente-Maritime, où je suis devenue boulangère paysanne. Donc, en gros, on cultivait nos céréales, on faisait la meunerie, donc on faisait la farine, et puis on transformait tout en pain. Et ça, en fait, ça a été une révélation, c'est-à-dire que j'ai mis mes mains dans la pâte, et là, je me suis dit, mais en fait, il y a quelque chose à faire avec ses mains, quoi. Enfin, je suis capable de faire quelque chose de mes mains, quoi.
Ouais, j'avais oublié que je pouvais faire un truc avec mes mains.
C'est ça, exactement. Ouais. ça a duré un an et demi, parce que c'est quand même très physique. J'ai perdu 10 kilos.
Ouais,
okay. C'était un four à bois, donc c'était vraiment physique. Et puis beaucoup, beaucoup de pain. On faisait 400 kilos de pain par semaine. Donc c'était quand
même... Ça doit être très intense.
Ouais, c'était quand même pas mal, ouais. Et puis il y avait les marchés, tout ça, donc c'était vraiment super intéressant. Mais c'était trop physique pour moi. Ouais. Et puis j'avais pas cette dimension, intellectuelle qui m'intéressait, enfin, créative et intellectuelle, quoi.
Ouais.
Donc j'ai arrêté de faire ça et j'ai construit notre yourte parce qu'on habitait dans une yourte. Donc pareil, moi qui pensais être fâchée avec les tournevis et les perceuses, j'ai construit notre maison et ça a vraiment eu l'avantage, ces deux expériences, de me remettre dans mes mains.
Ouais.
Et je me suis retrouvée par contre dans le fin fond de la Charente-Maritime à rien avoir à faire d'autre que regarder les oiseaux passer. Ouais. Et donc je me suis dit tiens, si je me remettais à dessiner, et là je me suis lancé le défi de faire un dessin par jour. Et donc ça a duré à peu près un an.
Il y avait un thème ou?
Ouais, il y avait des thèmes. Après, tu as toujours des petites listes de prompts.
Oui,
un peu partout,
les Inktober.
Ce genre d'Inktober, mais sur tous les mois, tu peux trouver des trucs.
Ouais.
Effectivement, j'avais un thème et vraiment le challenge du jour, c'était ça, quoi, de faire un dessin par jour.
D'accord.
Et au bout d'un moment, je me suis dit, tiens, il y a peut-être un truc à faire. On commençait à me demander des logos, des trucs comme ça, les copains autour. Et je me suis dit, mais en fait, il y a peut-être un truc à faire entre le dessin et la science, quoi. Pour relier les deux et rester dans un métier un peu manuel, mais avoir le côté épanouissant de la recherche quand même, quoi, d'être, de rester un pied dans la recherche, quoi.
En fait, relier tes deux. Tes deux passions, en fait.
Mes deux pôles, quoi, vraiment.
Ouais. Les mains et le cerveau.
C'est ça, tout à fait. Et il y avait du besoin, donc c'est là où j'ai eu de la chance, quoi. Je suis arrivée à un moment où ça se développe, ça se développait pas mal, quoi. C'était il y a 4-5 ans. Mm-hmm. Et ouais, du coup, c'est vraiment arrivé au bon moment, je pense.
Donc là, t'as quitté ta ferme ?
Ouais, c'est ça. Enfin, genre, je travaillais de chez moi, mais ouais, j'étais à côté de la ferme, ouais. Et je me suis formée au graphisme d'abord. Alors, sur Internet, hein, j'ai fait une formation en ligne parce que c'est vrai que j'étais un peu loin de tout. Puis c'est compliqué de reprendre des études, passer 35 ans, tout ça, quand t'as pas forcément tout. T'as pas forcément les ressources financières pour le faire. Ouais. Donc, je me suis formée en un an, là, avec un truc sur Internet, une école en ligne, quoi.
Ouais.
Et donc, je suis devenue graphiste, illustratrice.
Ouais.
Et donc là, j'ai commencé à faire un peu des logos, des trucs comme ça pour des boîtes classiques, un peu du bouche à oreille. Et puis, il y a un premier chercheur qui a décidé de me faire confiance. Et c'est de là que tout est parti, en fait.
D'accord. Mm. Et ça, c'était il y a combien de temps ? Il y a 3 ans ?
Plutôt 4 ans et demi, un truc comme
4 ans et demi, ok.
Ouais.
Et depuis, bah, ça fait 4 ans et demi que tu dessines pour la science ?
Ouais, c'est ça.
Et tu vois une évolution ou pas ? Dans ce que tu fais, dans ce que tu aimes
faire ?
Ouais.
Ah ouais, carrément. Ouais, déjà au début, je faisais que de la BD ou du graphisme pur et dur, c'est-à-dire infographie, je faisais des logos, tout ça.
Ouais.
Et en fait, j'arrête pas de me former à des nouveaux trucs. Il y a eu l'arrivée de la facilitation graphique, ça, je connaissais pas ce truc-là.
C'est quoi ?
En gros, tu utilises le dessin pour expliquer des trucs en direct.
Ouais.
Par exemple, sur des congrès, dans des conférences, etc.
Mm-hmm.
Et en gros, t'es à côté, t'as le chercheur qui parle, puis toi, t'es à côté dans un petit coin, et on projette ton dessin qui se forme au fur et à mesure de ce que raconte le chercheur. Ou...
Ça doit être un méga challenge. Alors, tu prépares en avance, tu t'informes un peu pour pas être juste...
Ouais, tout à fait, submergé d'informations compliquées.
Submergé d'infos et pas savoir trop quoi faire.
Ouais,
ok, donc ça demande une préparation, tu lis, tu t'informes un peu.
Le chercheur, en général, t'envoie plein de documents,
D'accord.
Tu reçois plein de trucs, tu sais un peu de quoi ça va parler. Des fois, il te donne carrément l'abstract ou en tout cas le résumé de ce qu'ils vont dire. Parfois, ils t'envoient carrément leur diaporama. Et donc, ça te permet de te familiariser avec le sujet, parce que bon, on est spécialiste quand on est docteur d'un truc, mais on n'est pas calé dans tous les sujets qui touchent
loin de
la science, quoi. Heureusement. Mais ouais, du coup, ça te permet de te familiariser avec le truc et puis de préparer une petite bibliothèque de picto pour arriver avec des petits dessins un peu tout faits dans ta tête, quoi.
Ouais.
Et puis voilà, après t'arrives et tu prends un peu ce qui se dit et en fait t'es obligé de te mettre dans une forme de flow qui est assez grisante quand t'arrives à te mettre dedans.
Ouais.
Parce que tu lâches un peu le mental et paf, t'arrives à analyser un peu ce qui se dit et à dessiner au fur et à mesure, quoi.
Tu ouvres les vannes de la création, quoi.
Ouais, c'est ça. Par contre, c'est hyper exigeant mentalement et physiquement. T'es vraiment crevé. Tu fais ça une demi-journée, après il te faut 3 jours pour t'en remettre, quoi.
Ouais, il faut être à l'affût de tous les petits détails, de tout ce qu'il dit à la fois, de tout ce qu'il présente, des images, je suppose, qu'il présente, de comment il parle, de tout ça. Ouais.
Rester hyper concentré.
Ah ouais, non, mais j'imagine que ça doit être un des trucs les plus prenants niveau mental, parce que tu dois dessiner, tu dois en même temps écouter, tu dois en même temps réfléchir.
Ouais, c'est ça, c'est hyper intéressant et puis c'est challengeant pour le cerveau, mais c'est vrai que c'est des choses que je fais plus du tout aujourd'hui, tu vois, par exemple. Parce que en termes de. Je trouve que c'est difficile d'avoir un truc vraiment, vraiment. Propre.
D'accord.
Et comme je suis un peu exigeante, je préfère faire des trucs en différé maintenant où je suis sûre d'avoir vraiment le temps de réfléchir comment je vais structurer les idées, comment je vais les présenter pour que ce soit joli. Et je trouve qu'on fait toujours des trucs un peu jolis en direct, mais c'est souvent un peu trop creux par rapport à ce qu'on peut faire en différé, quoi.
Oui, parce que t'as pas forcément le temps tout de suite en direct.
Je pense qu'il faut un cerveau vraiment fait pour ça. Et moi, je crois que j'ai un cerveau qui part un peu dans tous les sens. Il y a des gens qui font ça très, très bien. Donc, du coup, je les laisse faire. Mais oui, c'est vrai que ça a été une belle découverte.
Ouais.
C'était le premier truc. Et puis après, je me suis dit, tiens, en fait, moi, je me suis toujours formée de façon autodidacte. Je pense que je pourrais remercier YouTube. Je sais pas si on peut citer des gens dans ton podcast, mais des entreprises. Mais toute la communauté qui publie. Tout plein de tutos pour te former, c'est un truc de fou. Tous les logiciels sur lesquels je travaille, je les ai appris grâce à ça, quoi.
Et je pense qu'en plus, il y a aussi une formation par la recherche, c'est-à-dire qu'en recherche, on est habitué à lire les protocoles, aller chercher des infos, aller demander aux gens. Parce que moi, je vois, quand je me suis lancée sur le podcast, c'était la même chose. Hein. J'ai lu tout ce qu'il y avait, j'ai regardé plein de formations, plein de tutos YouTube, etc. Après, je suis allée demander aux potes qui faisaient déjà du podcast s'ils avaient des conseils ou pourquoi ils utilisaient plutôt tel micro, plutôt tel logiciel. Et puis après, tu te lances et puis... tu adaptes et puis tu améliores au fur et à mesure à chaque
Ah bah c'est clair,
quoi.
Ouais, c'est clair, tu vas vraiment chercher ce dont tu as besoin, quoi.
Et ça, c'est la méthode scientifique au
final. Ouais, c'est clair, oui, t'as raison, c'est vrai que j'avais pas fait le lien, mais effectivement, ouais, bien sûr, je pense que De toute façon, tu sors pas indemne d'une thèse et c'est clair que t'as pris plein de réflexes en fait. Tu vois, j'avais même pas conscience que c'était un réflexe de j'ai une problématique, paf, je vais chercher la solution. Effectivement, ça c'est un gros point positif de ce que j'ai pu apprendre en thèse. Ouais.
Et donc, tu t'es formée sur plein de trucs.
Ouais, du coup, j'ai commencé sur le logiciel Illustrator, le logiciel pour dessiner du vectoriel. Et puis, en fait, je commençais à voir, tu sais, sur YouTube, t'as toujours des trucs où ils te suggèrent des choses. Ouais. Et donc là, j'avais plein de petits trucs qui m'arrivaient. Oh, regardez, on peut faire un peu de motion design et tout. Donc, j'ai découvert cette partie-là, quoi,
ouais.
Du dessin animé, enfin, en tout cas, l'animation 2D. Et je me suis dit, bah tiens, je vais essayer, je l'ai, le logiciel, vas-y, je l'ouvre et on essaye, quoi.
Ouais.
Et en fait, je trouve que c'est génial. Enfin, c'est vraiment, au-delà du dessin, tu donnes vie à tes dessins. Et je trouve que pour moi qui suis fan des sciences de la vie, animer mes dessins, leur donner de la vie au sens propre du terme animé, quoi, donner la vie au dessin, et ben ça faisait vraiment une boucle logique, quoi. C'est-à-dire je dessine pour la science de la vie, du coup j'utilise quelque chose qui bouge.
Je donne vie
aux sciences
de la vie.
Ouais, c'est ça. Et ça s'y prête vachement, ouais.
Alors, ta mission préférée, c'est quoi? Parce que quand on est freelance, on fait un milliard de trucs différents. Parfois, on fait des trucs différents par rapport au moment de l'année, suivant les clients. Des fois, on fait des choses et puis après, on évolue, on n'y revient plus. Parfois, c'est parce qu'on n'aime pas trop ou parfois, c'est aussi parce qu'on n'a pas forcément eu la possibilité. Donc, toi, par exemple, la facilitation, tu étais un peu moins fan, on va dire, donc tu fais plus trop.
Ouais, je pense que c'était un truc de... J'ai l'impression que j'ai un peu des phases, quoi.
Ouais.
À partir du moment où je me suis éclatée dans un domaine, hop, j'ai besoin d'apprendre autre chose. Pense que ça, c'est un tempérament aussi. Mais la facilitation graphique, j'en ai pas mal fait. Et puis, en fait, à un moment donné, quand tout le monde venait vers moi que pour ça, je me retrouvais un peu frustrée de ça. Ouais.
Et donc, attends, ma question, c'est le all-time favorite. C'est quoi le truc que tu préfères faire que tu as préféré de tout?
Ouais.
Genre vraiment, tu t'es éclaté, quoi.
C'est clairement faire des vidéos du motion,
ouais.
Parce que t'as tout un travail aussi de réflexion sur le script, le scénario. Enfin, c'est vraiment hyper complet.
Ouais.
T'as du dessin, de l'écriture, trouver des voix off super cool. Tu pourras nous en parler. et vraiment, chercher un peu une couleur à donner au truc.
Ouais.
Et une cohérence, tout ça.
C'est le plus complet au final.
Ouais, c'est hyper complet.
Ouais.
Et puis après, donner vie, tu sais que tu vas déplacer un tout petit truc, pouf, ça va être magique, ça va tout changer, quoi.
Ouais.
Et non, vraiment, ouais, faire de l'animation 2D, et je pense même un jour je ferai de la 3D parce que j'ai commencé à me former et je trouve ça fascinant, tout ce que tu peux faire, quoi.
Ah ben, carrément.
Ouais, je pense que la vidéo, c'est vraiment mon truc.
Et t'as commencé ça quand, la vidéo?
Pour le coup, là, j'ai fait deux formations assez solides. C'était en 2021, pendant le Covid, là.
D'accord.
En fait, il me restait du CPF à fond et puis j'avais un peu de trésorerie. Donc je me suis dit, on y va, on va chercher à se professionnaliser là-dedans. Et voilà, du coup, j'ai fait ces deux petites formations. Coup sur coup, quoi, pendant le Covid.
Ok. D'ailleurs, je mettrai peut-être le lien de ce qu'on a...
carrément, avec plaisir.
...qu'on a fait, sur lequel j'ai mis ma voix. Le premier travail qu'on a fait ensemble, d'ailleurs, rencontré sur LinkedIn.
Oui, c'est vrai.
Je mettrai ça en lien pour que les auditeurs et les auditrices puissent découvrir. Quelle a été, au final, ta première vraie expérience de vulgarisation?
C'est vrai, quoi, comme j'ai commencé, comme je te disais, à faire du graphisme pour des entreprises lambda, le tout premier truc que j'ai fait, c'est pour Sébastien Roger
à Tours.
Qui est un ancien collègue. En fait, il était chercheur dans le labo où j'ai fait ma thèse.
Ouais.
Et puis, il a changé de labo, il est devenu directeur de labo de son labo, qui vient d'être labellisé INSERM, bravo. Et lui, c'est un collègue et un ami, quoi. Et il m'a fait confiance, il m'a dit, écoute, j'ai un projet en collaboration avec Centre Sciences, qui est un centre qui permet de promouvoir la science par chez nous en Centre-Val de Loire.
Mmh.
Et donc avec Béatrice Saulnier qui travaille pour eux. Et donc ils m'ont dit, on a un petit peu de budget là sur un projet, on voudrait faire une BD.
Ouais.
Et donc ça parlait des exosomes. Un exosome, c'est une toute petite vésicule qu'il y a dans les cellules qui contient plein de trucs, qui permet aux cellules de communiquer entre elles. Et donc dans ce laboratoire, ils travaillent là-dessus.
D'ailleurs, c'est la fameuse vidéo dont je parlais je vais mettre en
description. Oui, c'est ça qui est rigolo. En fait, la première BD que j'ai faite, c'était il y a 3 ans.
Ouais.
C'était sur ce sujet-là. Et ça correspondait au début de la thèse de Thomas, le thésard avec qui on a travaillé pour Sébastien, qui finissait sa thèse cette année. Et donc, du coup, en fin de projet, ils ont eu envie d'utiliser l'argent qui leur restait pour faire la vidéo qu'on a faite ensemble.
T'as bouclé la boucle, en fait.
Voilà, c'est ça, tout à fait. On est parti d'une BD et on est arrivé à une vidéo. Et c'est super chouette.
Ça sera de la vidéo 3D.
Peut-être. Ouais, on va déjà. Alors, tu sais, c'est quand même assez large l'animation, que ce soit une motion ou même. Là, j'ai fait pas mal d'animations tradies aussi dans cette vidéo.
Ouais.
C'est-à-dire, tu sais, frame par frame, en fait, enfin, image par image.
C'est ça la différence, en fait, entre le motion design.
Ouais.
Un peu ce qui expliquait bien la différence.
C'est ça. En gros, le motion design, tu prends des formes que tu vas déplacer.
Ouais.
Mettre des petites images clés à différents endroits de ta timeline, enfin, du temps, quoi. Et donc après, le logiciel, il va calculer, il va interpoler
les
différentes positions de cet objet, de cet objet graphique. Alors que le frame par frame, l'animation traditionnelle, en gros, tu dois faire, en fonction de ta fréquence d'image par seconde, tu dois faire autant de dessins que ce que tu as d'images par seconde. Par exemple, si tu travailles en 25 images par seconde, tu dois faire 25 images par seconde, donc 25 dessins, quoi. Donc si tu veux faire une petite vésicule qui se déplace et qui traverse l'écran, tu dois faire... Si ça dure une seconde, il faut que tu fasses 25 dessins où elle se déforme.
Donc c'est beaucoup plus de taf.
Ouais, par contre, c'est hyper marrant parce que du coup, tu peux vraiment donner vie et ça peut donner un truc beaucoup plus organique, en fait, beaucoup plus vivant.
Et puis peut-être beaucoup plus proche de ce que tu veux aussi, non ?
Ouais, carrément. Après, j'aime beaucoup le motion aussi. Ouais, puis tu peux les compiler, là, c'est ce que j'ai fait sur la vidéo. Tu peux utiliser les deux techniques, c'est ça qui est super chouette.
Est-ce que tu as un souvenir d'un truc que tu as fait, tu vois, d'une expérience professionnelle, d'un projet sur lequel tu as travaillé, qui t'a fait vraiment plaisir ou tu as eu vraiment l'impression de servir à quelque chose ?
La grande question.
La grande question.
Ouais, c'est ça. Bah, moi, j'ai toujours besoin d'être utile, donc c'est vrai que j'espère que ça sert.
Oui, mais ça sert. Ça sert, mais c'est vrai qu'il y a des projets où vraiment on voit, enfin, il y en a certains, on n'a pas de retour, on ne sait pas trop. On envoie un peu un truc et puis on espère que ça soit utile. Parfois, on n'a même pas de retour vraiment des gens qui écoutent, par exemple, ou des gens qui regardent, ou je ne sais pas quoi. Et puis, des fois, on a vraiment un retour direct et ça fait hyper plaisir.
Ouais, je comprends. Ouais, je pense que j'ai deux trucs. On a fait une expo numérique, du coup, c'est l'avantage de bosser avec des collègues qui sont aussi calés en web.
Ouais.
Et donc, on a travaillé pour un labo qui travaille sur le microbiote. Et c'était génial.
Les bactéries qu'on a, ça, dans notre corps. Hein.
Ouais, c'est ça, les microbiotes intestinales, là, en particulier, parce que c'est des bactéries qui nous aident dans l'intestin.
Mm-hmm.
Et on a fait une expo hyper rigolote, bien conçue à la base par le laboratoire.
Ouais.
Et on a dessiné des petits caca et des petites bactéries. Et c'était sympa. Et c'était une expo interactive sur le web. Et ça, c'était vraiment chouette de découvrir un autre milieu, en fait, parce que moi, le web, je ne connaissais pas du tout.
Ouais.
Et de devoir adapter mes dessins à ça. Et c'était une super bonne expérience parce qu'il y a eu pas mal de retours, comme quoi c'était intuitif, comme quoi ça servait. Parce que c'était, le public cible, c'était des lycéens, des collégiens. Et donc, on est vraiment allé les chercher sur un sujet un peu complexe. Et en gros, j'ai fait le parallèle entre une appli de rencontre et donc le microbiote avec les aliments et notre intestin, quoi. Et voilà, du coup, c'était marrant.
Alors, donc ça, c'est ton premier meilleur souvenir de ce que tu as fait.
Et puis, j'ai couvert ça, c'était plutôt une fierté.
Ouais.
J'ai couvert une conférence qui était franco-japonaise.
Okay.
Et donc, il y avait des chercheurs français, des chercheurs japonais, des chercheurs un peu de partout. Et je leur ai fait à chacun une planche pour expliquer leur talk, quoi.
Okay.
Et ça, c'était cool parce que c'est ma première et ma seule expérience à ce jour à l'étranger, quoi. Et ça, j'étais super contente. Je me suis dit, waouh, ça, c'est un sacré truc.
Bah ouais. Mm. C'était quoi le challenge en plus à la barrière du langage ?
Bah ouais, déjà, parce que je reste française et qu'on n'est quand même pas très, très bon en anglais, même si je me défends quand même.
Ouais.
Donc ça, c'est sûr que t'as toujours peur, en fait, de pas prendre le bon mot. Tu veux faire des blagues. Moi, j'aime bien rajouter un peu d'humour, mais des fois, tu sombres complètement à côté parce que, voilà, t'es pas non plus... tu vis pas là-bas, donc tu sais pas forcément. Enfin, moi, j'ai pas vécu là-bas, donc j'ai pas les refs.
Ouais.
Mais j'avais un peu peur de ça. Et puis, eux, finalement, t'as des accents aussi, donc c'est compliqué de comprendre. J'avais toutes les vidéos, en fait, donc je pouvais repasser, heureusement, plein de fois.
Okay.
C'était enregistré.
Ah oui, c'était pas en live.
Ouais, non, heureusement. Ça,
ah oui, parce que là, je me disais, mais en live, mais déjà dans ton langage, quand t'es bien préparé, c'est important.
Je pense qu'il y en a qui sont capables, moi, j'en suis pas capable. Clairement, faut aussi être lucide, quoi, sur ce qu'on est capable de faire ou pas. Et là, ça aurait été vraiment trop dur, quoi.
Ok. Ah, top, mais ça devait être une expérience excellente.
Ouais, c'était. Il y en avait une bonne vingtaine. C'était un sacré challenge, ouais.
Voilà, donc je vais introduire un nouveau truc que je n'avais pas encore fait avec les deux premiers épisodes. Mais je trouve que ce podcast, justement, l'idée, c'est si jamais il y a des gens qui sont intéressés, de se lancer dans des milieux où on communique la science, c'est bien d'avoir plein de profils, de voir qu'il n'y a pas un profil pour faire de la communication scientifique, il y en a généralement 500. Non, mais c'est vrai, on a chacun et chacune, on a un profil bien spécial. Il y en a qui ont fait de la science, il y en a qui n'en ont pas fait. Il y en a qui en ont fait trop longtemps, comme moi, par exemple. et voilà, et du coup, je me dis... Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à ta toi d'il y a 10 ans qui vient tout juste de soutenir ta thèse? Ou qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui veut se lancer? Peut-être tu as 3, si tu en as 3, c'est bien 3, ouais. C'est un bon chiffre.
Bah, le premier truc, c'est de se faire confiance. Je pense que on va toujours finir par trouver notre place en fait. Moi, j'ai beaucoup douté en me disant « Oh là là, j'ai fait un doctorat, j'ai fait toutes ces études, je me retrouve à faire complètement autre chose, je me sens pas légitime dans ce que je fais. » Et j'arrivais pas trop à me faire confiance et tout. Et en fait, je me dis avec le recul, bah, finalement, j'ai trouvé ma place et ma place, elle est vraiment juste en fait pour moi.
Tu as créé ta place, ouais.
Ouais, c'est ça, complètement en fonction de ce que j'aimais faire et ça marche, c'est ça surtout. Se dire en fait, ça marche parce que je suis à l'endroit où je dois être. Et si jamais je suis plus à l'endroit où je dois être, et ben, je pense que j'en changerai. En fait, donc c'est se faire confiance et c'est de pas avoir peur de sortir du cadre aussi.
Ouais.
Ça, c'est le premier truc. L'autre truc, c'est qu'au début, je ne disais pas que j'avais un doctorat. Je ne l'affichais pas du tout.
C'est vrai ?
Ouais. Okay. Je ne l'affichais pas. J'étais en mode, oh là là, non, je ne vais pas mettre ça. Parce que j'avais un peu ce réflexe de, en général, quand tu dis que tu as un doctorat, quand on veut te recruter, par exemple, on ne va pas te prendre parce que tu as un doctorat en France.
Parce que tu es trop cher.
Ou voilà, c'est ça.
Ouais.
Et donc, j'avais un peu ce truc-là. Et en fait, c'est au moment, ça a un peu galéré à démarrer. La première année, ça ne marchait pas trop.
Ouais.
Et au moment où je me suis dit, mais en fait, assume. T'es docteur, peut-être que c'est une plus-value. Et effectivement, j'ai commencé à mettre docteur ou PhD partout sur les réseaux, tout ça.
Ouais, surtout là.
Ouais, sur mes signatures et tout.
Quand tu communiques la science au
final. Bah ouais, clairement, en fait, ça a été une grosse plus-value, quoi. Parce qu'ils se sont dit, ok, elle fait du dessin, mais aussi elle est chercheuse à la base.
Ouais.
Donc, peut-être qu'elle va être dans une autre démarche. Je pense que ça peut être une plus-value. C'est pas une garantie, mais ça peut être une plus-value, ouais.
Oui, c'est pas forcément... Ne faites pas une thèse en science, si jamais vous voulez faire de l'illustration et vous le savez, mais après une thèse, c'est pas...
C'est possible. C'est ça. Ouais, c'est ça. Donc ouais, c'est de... Et puis le dernier truc, ce serait toujours d'aller vers un truc qui vous procure de la joie.
Ouais.
Ça, c'est quelque chose que j'avais pas capté avant. Parce que quand il y a de la joie, quelque part, c'est vraiment... Pour moi, c'est l'émotion du sens de la vie. Donc si je vais vers un truc qui m'apporte de la joie, bah forcément, je vais être à ma place.
Ouais, et puis tu vas passer un bon moment, t'auras...
Voilà, c'est ça. J'aurai moins l'impression de travailler. Ouais, ou en tout cas, je saurai pourquoi je fais ça. Et du coup, quand il y a des moments difficiles, tu peux te raccrocher à ça, quoi.
Ouais.
Ouais. Faut pas aller vers des trucs qui sont pénibles tout de suite, quoi. Il y aura forcément des trucs pénibles.
Mais oui, même vraiment... quand ça se passe bien, même quand
c'est ça.
Super projet, il y a des morceaux pénibles.
Ouais.
Déjà, d'être freelance, il y a toujours de l'admin, par exemple, ce qui est ultra pénible.
Enfin, ouais, clairement.
Je trouve ça méga pénible. Mm. Mais c'est vrai que quand il y a des projets sympas, passer du temps à devoir faire une facture, à gérer les signatures, etc., quand le projet est cool, c'est tout de suite mieux.
Ouais, ça motive.
Voilà, quand c'est un peu, tout est un peu lourd.
Clairement. Mais au-delà de ça, voilà, aller vers quelque chose qui nous procure de la joie, je pense que ça aide vraiment à se trouver, quoi. Enfin, moi, ça a pris 10 ans, en fait, ce processus-là. C'est pas arrivé en 5 minutes, quoi. J'ai dû expérimenter des trucs, sentir qu'est-ce qui m'allait, qu'est-ce qui m'allait pas, et puis finir par me créer le métier adapté à qui je suis. Je rentrais pas dans les cases et je m'en suis trouvé une, quoi. J'ai creusé ma case.
Et là, tu penses que tu as trouvé ta place, là ?
Ouais, je pense. Ouais, carrément. Oui, et puis il y a des besoins, donc ça c'est quand même cool, quoi. Quand tu trouves ta place et qu'en plus en face il y a un besoin. Après, je te cache pas que je suis un peu flippée de tout ce que je vois arriver avec l'intelligence artificielle.
Ouais, mais il y a des choses, je pense qu'il y a encore des choses, on aura
bien sûr.
De réillustrateurs, surtout la science, je vois comme ça peut être tout pété ce que l'intelligence artificielle peut sortir comme illustration.
Mm. Ouais, mais.
Pour la science, bon. Il faut réfléchir quand même.
C'est ça, faut l'avoir en tête, quoi. Faut pas se dire c'est facile, ça va durer toute. C'est pas simple, je pense que ouais.
Et il y a quelque chose que tu as envie de tester que tu n'as pas encore essayé?
Ah, j'avais pas pensé à cette question.
J'arrête de poser des questions d'habitude, j'aime bien.
Quelque chose que j'aurais envie de tester, j'aimerais bien, mais alors ça n'a rien à voir avec le dessin. J'aime aussi beaucoup écrire.
Ouais.
Et donc, je crois que j'aimerais bien un jour essayer de faire un genre de scénario, de vidéo, mais filmé. C'est-à-dire qu'on filme des gens dans un labo, essayer de raconter une histoire un peu sympa pour vulgariser la science. Ouais, c'est ça, exactement. Okay. Je cherchais le mot.
Tu quittes complètement l'illustration pour passer...
Ouais, juste, je sais pas, comme ça, une expérience pour voir. Essayer de faire un peu une ligne directrice pour écrire un documentaire dans un labo ou un truc. Ça me ferait marrer.
Bon, ben voilà.
Mais voilà, ça n'a rien à voir.
Une fois que tu auras fait, parce que là, il me semblait que le dessin animé, enfin les dessins animés, les animations, ouais. Voilà, c'est en plein kiff, t'adores faire ça.
Ouais, c'est ça, depuis toujours.
Après, il y a
ouais.
la 3D et maintenant, il y aura les documentaires. Très bien. Bon, là, les 10 prochaines années.
Ouais, c'est ça. Non, mais s'il y avait que ça. Non, mais ouais, j'aime beaucoup écrire aussi. J'aimerais bien faire une BD aussi, mais c'est vrai que le monde de l'édition, c'est tellement compliqué
ouais.
que tu vas beaucoup, beaucoup travailler pour pas beaucoup de retours. Donc, ça, on verra peut-être un jour, je sais pas, quand je serai plus vieille. Ouais, c'est ça, quand je serai plus grande.
Est-ce que on arrive à la fin de ce podcast? Est-ce que il y a quelque chose qu'on n'a pas abordé que tu aimerais aborder maintenant ou on a tout couvert et on a tout raconté?
Bah peut-être juste mon statut parce que je pense que ouais. c'est quelque chose qui est pas hyper connu et pourtant ouais. Moi c'est quelque chose clairement qui m'a aidé. Si j'étais pas dans une coopérative, je me serais pas lancée. Moi je suis un peu une phobique beaucoup une phobique des papiers, j'aime pas l'administratif et au tout début en fait quand je me suis lancée, j'ai découvert le système de coopérative d'activité d'emploi. Ouais. Ça s'appelle une CAE. Et moi, je fais partie du coup d'une CAE qui te porte, en fait. Elle te permet de tester ton projet pendant 6 mois renouvelables, 1 an.
D'accord.
Et pendant ce temps-là, en fait, tu peux toucher tes droits de chômage ou de RSA si t'en as.
D'accord.
Et donc, pendant cette année de test, tu vas faire rentrer de la trésorerie, tester tes ouais. prestations de services, etc., avoir des clients, faire des factures, des devis, un truc classique. Ouais. Et une fois que tu as assez de trésorerie, hop, tu peux commencer à te payer. Et d'accord. ça, c'est hyper sécurisant parce que du coup, je suis ma propre salariée.
Ouais, t'es en CDI du coup de.
Je suis en CDI avec moi-même. Ouais. ouais. enfin, avec la coopérative, mais c'est moi qui gère.
C'est ouais.
Voilà, c'est moi qui décide quel salaire je veux en fonction de ma trésorerie et tout ça. Et derrière, en fait, on a mutualisé tout ce qui est administratif, c'est-à-dire qu'on a un comptable et puis des gestionnaires administratifs qui gèrent toute la partie qui nous fait horreur, quoi.
Ouais,
et comme eux, ils sont pros de ça, du coup, on a plein d'avantages. Et puis, je suis aussi protégée par rapport à des gens qui sont en freelance. En auto-entreprise ou quoi, c'est-à-dire que j'ai une ouais. mutuelle, si je me casse la main demain, c'est la sécu qui prend tout de suite, j'ai des chèques déj, j'ai une carte pro, enfin tous ces trucs.
Ouais, ouais, les trucs de CDI comparés.
Ouais, c'est ça, c'est plus facile pour la retraite, tout ça.
Et, ouais. et c'est des coopératives, toi, c'est une coopérative, c'est par activité spéciale ?
Ouais, c'est ça, tout à fait. Ouais. En fait, tu as des coopératives par type de métier, par exemple, la mienne, c'est une coopérative art et culture,
ouais.
qui s'appelle Artefact, qui est basée à Orléans et Tours. Mmh. Moi je suis de Tours à l'origine et après par exemple t'en as dans le bâtiment par exemple
ouais.
Tu vois, et donc tu peux chercher dans n'importe quelle grande ville tu vas en trouver ouais, des coopératives okay. d'activité d'emploi
quand on se lance surtout quand on a des allocations chômage etc. ça peut être
ouais ça vaut le coup effectivement il y a une contrepartie financière forcément hein, puisqu'on mutualise tout mais il faut bien les payer ces gens qui travaillent pour nous
ouais.
et effectivement c'est un surcoût ouais. Mais par contre, tu as de la formation. Ouais, tu as de la sécurité, puis tu as de la formation, tu es accompagné.
Ouais, ouais.
On est accompagné pour créer une entreprise. Donc, moi, j'en avais vraiment besoin. Et même maintenant, la dimension collective me plaît trop parce que du coup, je peux bosser avec des gens qui font du web, des gens qui font de la réalisation vidéo. Enfin, on a plein de compétences du coup hyper transversales et ça nous apporte des projets que j'aurais jamais eu autrement. Quoi.
Ouais, c'est top. C'est vrai que c'est. Oui.
Et puis, tu n'es pas toute seule. Quoi.
Seule. Ouais, voilà.
Ouais, clairement.
C'est vrai qu'on est freelance, on a tendance à être seule. Donc,
ah ouais, clairement.
Les coopératives, ça permet d'être plusieurs et de.
Ouais. Donc c'est plus cher, mais
désolé. Ouais, mais
t'as des avantages.
Il y a des avantages qui se payent effectivement, mais qui ont un sens. Donc, en tout cas, merci d'avoir terminé là-dessus parce que je pense que c'est effectivement un bon conseil. Merci beaucoup Lucie,
avec
je suis
plaisir,
vraiment
merci
très,
à toi.
Très contente de t'avoir eu dans ce podcast, surtout qu'on en parlait depuis quand même quelques semaines.
C'est clair. Merci à toi, c'est trop cool.
Et je mettrai les liens pour te suivre sur les réseaux, okay. ton site, etc., pour que les gens puissent venir éventuellement te contacter s'ils ont des questions.
Avec plaisir, merci beaucoup.
Voilà, et puis suivre ce que tu fais. Et merci beaucoup à toi, en tout cas.
Merci à toi, Elodie, c'est un plaisir.
À bientôt.
À bientôt.